Enfin, donc ce soir, nous allons parler d'un thème qui a été choisi pour compléter un thème qui a déjà été traité ici. Il a été traité par le frère Abdelwahab, responsable éducatif à la mosquée de Lille. Ce thème, c'était éduquer, purifier son âme au quotidien. Alors, il nous avait parlé de pas mal de choses. Pour ceux qui n'y ont pas assisté, je vous conseille d'aller sur le site, l'enregistrement est dessus. Il nous avait expliqué l'importance de purifier son âme au quotidien. Il nous avait parlé justement du fait que ce soit fait quotidiennement, mais on est resté un peu sur notre faim parce qu'il ne nous a pas expliqué comment. Il n'a pas eu le temps déjà, parce que c'était assez dense. Et justement, aujourd'hui, pour accomplir cette tâche qui n'est pas très facile, nous accueillons un conférencier connu en France et surtout en Belgique, spécialiste de l'islam de Belgique, un professeur d'islam aussi en Belgique. Et enfin, il est aussi docteur en histoire et sciences des religions. Alors, je vous demande d'accueillir Yaqoub Mahi, ici présente, Faddal Mashkoura.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خيرة خلقك سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين المنتخبين عليهم السلام والرضا عن الصحب الغر الميامين وعلى من اهتدى بهداه وسلك طريقه إلى يوم الدين اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Chers amis, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je tiens à vous remercier pour votre présence et surtout pour votre patience et à remercier d'emblée les organisateurs et organisatrices de cette rencontre, en le chef principalement de notre frère Bilal, qui m'a contacté à plusieurs reprises pour être parmi vous depuis très longtemps. Mais c'est la volonté de Dieu. Vous n'avez de volonté que en la volonté de Dieu, le Seigneur des mondes. Dieu a voulu que ce soit aujourd'hui notre rencontre. Alhamdoulillah ala kulli hal. Et je remercie notre Seigneur, exalté soit-il, qui nous permet de nous retrouver au sein de son espace, de sa maison, de la mosquée, pour pouvoir ensemble nous attarder un instant de méditation, un instant de réflexion, un instant de remise en question, un instant d'introspection autour de ce qui nous concerne individuellement chacun, séparément d'un autre, c'est-à-dire notre quête spirituelle, notre cheminement envers Dieu exalté soit-il. Al-Rabbaniya, ce que le Coran Karim appelle Al-Rabbaniya. Walakin kunu Rabbaniyin. Soyez Al-Rabbaniyin, c'est-à-dire habité de seigneurie. Walakin kunu Rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Sadaqallahu al-azim. Soyez Rabbaniyin de par ce que vous apprenez du livre et de par ce que vous enseignez. Dans Sourate Ali Imran. Je voudrais qu'on s'attarde, si vous me le permettez, sur les moyens qui nous permettent de se purifier au quotidien sur le plan de la spiritualité. Malheureusement pour moi, je n'ai pas pu assister à la conférence qui a été donnée sur la purification, purifier son âme au quotidien, l'importance de la purification de l'âme, la nécessité de la purification de l'âme et l'aspect central de l'éducation spirituelle en islam. Et sans aucun doute, le frère conférencier s'est attardé sur les versets qui mettent en évidence l'axe central qui est le tawhid, l'unicité de Dieu, exalté soit-il. Le tawhid, les défauts de la technologie. Le tawhid, l'unicité qui est un axe central, nous relie à Dieu, exalté soit-il. Alors je vais sans aucun doute répéter des choses qui ont été dites déjà. On dit en arabe shay'u iza takarrar taqarrar. Quand une chose est répétée, elle est ancrée. C'est-à-dire, dans la répétition, il y a toujours un bien. La répétition d'un acte, c'est la recherche de l'acquisition de la profondeur du sens de cet acte. On répète la prière 5 fois par jour pour en déceler et en découvrir la profondeur. et pas un lassement de la répétition d'un acte, tout simplement. Au contraire, je vais répéter des choses qui ont été dites sans aucun doute et revenir, essayer de revenir directement sur le comment. Le comment de la purification de l'âme, le comment de l'éducation spirituelle au quotidien. Qu'on m'entende bien, je ne suis pas là pour donner un programme d'éducation spirituelle indépendamment à chacun indépendamment de l'autre. Ça, ce n'est pas possible. Bien sûr, il y a une rigueur à avoir dans notre travail spirituel. Il y a des éléments en commun. Les outils sont peut-être les mêmes pour tous et toutes, mais le cheminement est différent. Et j'en dirai un mot. Alors, en guise d'introduction, je voudrais rappeler la nécessité de l'éducation spirituelle. La nécessité de l'éducation spirituelle et l'importance de se pencher sur l'éducation spirituelle. La nécessité de l'éducation spirituelle, tout simplement en partant du commencement. La genèse de la révélation coranique, « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, iqra bismi rabbik »« Lis au nom de ton Seigneur ». La lecture, c'est l'instant de méditation. Comme disait mon maître, le Cheikh Sadr Sharaf, « Rahimahullah ta'ala wa radia anhu arda ». La méditation. Et ensuite, on a « Bismi rabbik », donc « Iqra », la méditation, « Lis », le savoir. « Bismi rabbik », au nom de ton Seigneur, « Al-Iman », la foi, c'est l'interaction. « Al-Ta'amul et Tafa'ul ». Entre le ta'amul et le tafa'ul, il y a toute l'exigence de l'homme de revenir vers Dieu, exalté soit-il, et de prendre conscience de le souffle de Dieu en nous. En fait, le Qur'an Karim, quand il demande au prophète, alayhi wa alayhi, afdalu salati wa azkat taslim, de lire, il ne lui demande pas de déchiffrer ce qui est écrit, puisque Jibril, alayhi salam, ne vient pas avec un livre. Il vient avec une parole récitée. Iqra, de l'Qur'an, c'est ce qui est récité, la lecture récitée, la psalmodiée des propos de la parole de Dieu, exalté soit-il. Mais le prophète, alayhi wa alayhi salam, qu'est-ce qu'il va lire? Puisque les historiens nous disent qu'il ne savait à ce moment-là ni lire ni écrire. Il va lire, c'est-à-dire déceler les signes de Dieu qui lui parle dans l'univers. Il doit lire les traces de la majesté divine qui s'exprime autour de lui. Les signes de Dieu qui mettent en évidence son omniprésence, son omnipotence, son omniscience, exalté soit-il. Iqra bismi rabbi, qu'est-ce qu'il va lire dans sourate Ali Imran? Inna fi khalqi as-samawati wal-ard wa ikhtilafi al-layli wan-nahari la-ayatin li-uli al-albab allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal-ard ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار امين يا رب العالمين. Quand ce verset du Coran a été révélé au prophète Mohammed salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi, le compagnon Sayyiduna Bilal radiyallahu anhu arda vient pour le azan salat al-fajr et il éveille le prophète alayhi salatu wassalam et il le trouve déjà réveillé et il le trouve en train de pleurer. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Si vous saviez ce que je sais, vous rirez beaucoup moins et vous pleurez beaucoup. Et il pleurait. Alors Bilal lui dit, pourquoi tu pleurais, رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وسلم. Il lui dit, لقد نزلت علي آنفا آيات ويل لمن يقرأها ولم يعيها. Ont été révélés sur moi des signes, des versets, récemment, c'est-à-dire durant cette nuit, malheur à celui qui les lit et qui ne les médite pas. Dans la création des cieux et de la terre et l'alternance entre le jour et la nuit, il y a des signes pour les peuples dotés d'une intelligence. Le Coran te demande de lire, de déceler les signes de Dieu qui te parlent de sa majesté, de sa puissance, exalté soit-il, pour découvrir en toi tes limites et aspirer à la grandeur de Dieu, exalté soit-il. Iqra bismi rabbik. Qu'est-ce que tu vas lire? Wa fi anfusikum afala tubsirun. En vous-même, comme dit le Coran, ne voyez-vous pas les signes de Dieu qui vous parlent, qui s'expriment en vous, les signes de sa puissance, de son omniprésence, exalté soit-il. La nécessité de l'éducation spirituelle, c'est quoi? L'importance capitale de l'éducation spirituelle, c'est d'être en relation intime avec Dieu pour l'entretenir. Et je voudrais partir d'un hadith que vous connaissez probablement. Sayyiduna Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu arda rencontre un compagnon, un autre compagnon, Hamdala ibn Abi Amir. Et il lui dit, Kayfa haluka ya Hamdala, comment vas-tu? Il lui dit, Nafaqa Hamdala ya Abu Bakr. Hamdala se sent hypocrite. C'est des gens qui étaient sincères envers eux-mêmes, avec leur propre réalité. Il lui dit, je me sens quelque part impur, hypocrite avec moi-même. Il lui dit, Kayfa ya Hamdala, comment? Toi, un compagnon du prophète? Ah, où les compagnons du prophète n'étaient pas infaillibles, ils n'étaient pas parfaits. Ce sont des êtres qui étaient exposés au risque, à la fragilité, à l'insouciance, à l'oubli de Dieu, aux tentations, aux passions, aux désirs et aux plaisirs. Identiques à nous. Ils avaient une force, c'est la présence du prophète alayhi salam parmi eux, mais ils n'étaient pas parfaits. Et lui dit, je me sens quelque part hypocrite. Et Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu arda lui dit, Kaif, comment? Et lui dit, Kunna iza jalasna bayna yaday Rasulillahi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, fayuhadithuna anil jannati wa nar, faka anna naraha ra'ya'ayn. Quand on est assis à la table du prophète, alayhi wa alayhi salam, dans les séances de dhikr, de méditation, de formation, d'éducation, etc., et il nous parle du paradis et de l'enfer, on a l'impression de voir le paradis, de voir l'enfer. Une parenthèse, oui, la profondeur spirituelle permet de déceler des choses. Et Dieu dévoile à qui il veut de ses serviteurs ce qu'il veut, exalté soit-il, en fonction de ton cheminement spirituel, de ton degré de foi. Si quelqu'un pourra me rappeler, j'ai oublié le nom du compagnon à qui le prophète alayhi salam a dit « Kayfa asbaht ?» Comment es-tu ce matin? Il lui dit « Asbahtu mu'minan haqqan ya Rasulallah » Salawatu Rabbi wa salamu alayhi. Ce matin, je suis véritablement croyant. Et lui dit, لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةٍ. Toute chose a une vérité. فَمَا حَقِيقَةُ إِيمَانِكَ. Quelle est la vérité de ta foi? Et il lui dit, يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَوَاتُ رَبِّي وَسَلَامُ عَلَيْهِ. Il lui dit, عَزَفَتْ نَفْسِي عَنِ الدُّنْيَا فَتَسَاوَ عِنْدِي مَدَرُهَا وَوَبَرُهَا وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عَرْشِ رَبِّي وَكَأَنِّي بِأَهْلِ الْجَنَّةِ وَهُمْ فِي الْجَنَّةِ يَتَنَعَّمُونَ وَأَهْلِ النَّارِ وَهُمْ فِي النَّارِ يَتَوَاعُونَ. Il lui dit, عَزَفَتْ نَفْسِي عَنِ الدُّنْيَا. Mon ego, mon être, s'exile de ce bas monde. C'est-à-dire, je suis un ascète. L'ascétisme, l'éducation spirituelle, le fait que dunya ne soit pas un outil, que dunya n'enveloppe pas ton cœur, mais qu'elle soit un moyen entre tes mains. Et c'est toi qui la gères de par ta conscience et ton cœur. Par contre, si dunya, ce bas monde, les richesses, les passions, les désirs, les tentations enveloppent ton cœur, ton être, ta conscience, khalas, tu es asservi. Tu es l'esclave des passions, l'esclave du matériel. Il lui dit, عَزَفَتْ نَفْسِي عَنِ الدُّنْيَا. Mon ego s'est exilé de ce bas monde. فَتَسَاوَ عِنْدِي مَدَرُهَا وَوَبَرُهَا. L'or, le sable et l'or sont identiques à mon regard. C'est-à-dire ce qui a une valeur et ce qui n'a pas de valeur. وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عَرْشِ رَبِّي. Et c'est comme si je pouvais déceler le trône de mon Seigneur. وَكَأَنِّي بِأَهْلِ الْجَنَّةِ وَهُمْ فِي الْجَنَّةِ يَتَنَعَّمُونَ وَأَهْلِ النَّارِ وَهُمْ فِي النَّارِ يَتَوَاعُونَ. Et j'ai l'impression de déceler, de voir, d'entrevoir les gens qui sont au paradis dans la béatitude, la grâce de Dieu exalté soit-il, et de percevoir les gens qui sont en enfer dans la colère de Dieu, وَلَعِيَدُ بِاللَّهِ. Et le prophète, alayhi wa alayhi salam, lui dit, يَا هَذَا, j'ai oublié le nom, حَارِثَة. جزاك الله خيرا فتح الله عليك يا حارثة il dit يا حارثة عرفت فلزم. Tu as découvert, tu as la connaissance, al-ma'rifa, al-irfan, la gnose, la connaissance de Dieu, فلزم, tiens bon, comme dit notre grand frère et notre ami Hassan Qusen حفظه الله تعالى ورعاه, tiens bon, hein, tu as connu, tu as découvert, tu détiens la connaissance de cet élément, du secret de l'intimité, de la relation avec Dieu, falzam. Hein? Accroche-toi, tiens bon à cette intimité spirituelle. Donc Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu arda, il entend son compagnon lui dit, lorsqu'il lui dit pourquoi tu te sens hypocrite, il lui dit كنا إذا جلسنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأننا نراها رأي عين. Il nous parle, le messager nous parle du paradis de l'enfer, on a l'impression de le voir, de voir le paradis et de voir l'enfer. Parce que le prophète alayhi salam parlait du cœur. Comme disait mon maître le Cheikh Sadr Sharaf rahimahullah, al kalam iza kharaja min al qalb fa innahu yasilu ila al qalb wa iza kharaja min al lisan la yatajawazu al adhan. Quand une parole sort du cœur, elle atteint les cœurs. Mais quand elle sort de la bouche, elle ne dépasse pas les deux oreilles. La sincérité. Le prophète, alayhi salam, quand il parle, il fait une khutbah, il rentre chez lui à la maison et il voit son épouse Aïcha, alayhi salam, notre maître, notre mère, en train de pleurer. Et il lui dit, « Ma yubkika ya Aïcha, a'adouun hadar, amalun da' ammaradun nazal. » Qu'est-ce qui te fait pleurer? Une maladie? As-tu perdu un bien? Y a-t-il un ennemi qui est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Elle lui dit non. Je me suis rappelé ce que tu as dit dans ton sermon et je me posais une question qui m'intrigue. Hal tazkuruna ahlikum yawm al-qiyamah? Ô messager de Dieu, est-ce que le jour du jugement dernier, vous aurez une pensée à l'égard de vos proches? Et il lui dit, عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم إلا في موطنين يا عائشة عند تطاير الصحف وعند الميزان. Certes, on a une pensée pour nos proches, mais il y a des emplacements le jour du jugement dernier dans lesquels لا يذكر حميم حميمة. Personne ne pense à autrui. Dans sourate عبس وتولى, je pense, والله أعلم, si je ne me trompe. Ou surat al-Nazi'at. Allahu a'lam. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idin sha'nun yughnihi. Le jour où chacun va fuir son père et sa mère, son enfant et sa compagne, chacun a une préoccupation qui lui est propre, une intimité. Chacun revient en lui-même. Et lui dit à deux emplacements, lorsqu'on reçoit les livres, c'est-à-dire le document qui sont les éléments qui sont la preuve à notre égard, et lors de la balance, de la pesée des œuvres. Là, personne ne pense à autrui. Pourquoi elle a pleuré? Parce que lorsque le prophète, alayhi salam, il parlait en connaissance de cause. Et lorsqu'il l'a touché, pourquoi il l'a touché? Parce qu'il parle avec conviction et avec sincérité. Le Coran Karim rappelle que le prophète a été un témoin, alayhi wa alayhi salam. Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Shahid, un témoin. Il a vu, lors du voyage nocturne et de l'ascension, il a vu. Donc quand il parle bi haqq al-yaqin, ayn al-yaqin wa haqq al-yaqin, avec la conviction de ce qu'il a vu et la certitude de ce en quoi il croit. C'est la raison pour laquelle il touchait les cœurs. Et donc le prophète, il parle du paradis et de l'enfer et les compagnons ont l'impression de le voir. De voir le paradis et de voir l'enfer. Et il lui dit, quand on revient dans nos demeures, auprès de nos proches et de nos préoccupations, khalas, la foi a tendance à diminuer. C'est un sentiment normal, naturel, qu'on ressent tous. Et Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu arda, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, « Wa ana kazalik, et moi aussi. » La sincérité. Abu Bakr Siddiq, un des meilleurs des compagnons du prophète, radiallahu anhu arda, de qui dira le prophète, alayhi wa alayhi salam, « Law kuntu muttakhizan khalilan, lattakhaztu Aba Bakrin khalila, walakin Allah attakhaza sahibakum khalila. » Si je devais considérer un khalil, un intime, un ami intime, ça aurait été Abu Bakr Siddiq. Mais Dieu a considéré votre ami, c'est-à-dire le prophète, comme l'ami intime. Et il dira "Lawuzina imanu al-ummah bi imani Abi Bakr, la rajaha imanu Abi Bakr." Si la foi de la communauté était pesée face à la foi d'Abu Bakr, celle d'Abu Bakr radiallahu anhu serait beaucoup plus lourde dans la balance. C'est-à-dire il avait une foi inébranlable, une foi qui est ancrée dans la conviction et la certitude, haqq al-yaqin. Et il lui dit, et moi aussi j'éprouve ce sentiment. J'ai aussi cette fragilité. J'ai aussi des moments de remise en question. Et qu'est-ce qu'il lui dit ? Allons voir le médecin des cœurs. Hayya bina ila Rasulillahi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Qui est le prophète alayhi wa alayhi sallam. Ils arrivent chez le prophète alayhi sallam, ils lui relatent l'histoire. Et il leur répond, ala law dawamtuma ala ma antum alayhi indi fi majalis al-dhikr. لصافحتكم الملائكة في الطرقات ولكن ساعة فساعة. Il leur dit, si vous essayez de conserver, si vous tentez de conserver cette rigueur que vous avez lors des séances de dhikr, etc., en ma présence, vous serez salués par les anges dans les routes. ولكن mais ساعة فساعة. Ne brûlez pas les étapes. Pas à pas, degré par degré. En fait, ce hadith nous enseigne trois éléments. Premier élément, la constance. Al-mudawama ala ta'at. Ala law dawamtuma ala ma antum alayhi indi. Si vous essayez de conserver cette rigueur que vous avez en ma présence, c'est-à-dire la constance. Khayrul a'mali ila Allah adwamuha wa in qall. Le hadith nous dit, les meilleures des œuvres auprès de Dieu, ce sont celles qui sont constantes, continues, même si elles sont limitées. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité des actes et des œuvres. Deuxième élément, indi, en ma présence. On a besoin, dans le cadre de notre éducation spirituelle, de références. Vous savez, si on devait faire une typologie des sciences islamiques, les sciences islamiques ont été structurées, codifiées, bien après la mort du prophète, alayhi salam. La première science qui a été codifiée, c'est la science du droit, al-fiqh. Al-Imam Malik, rahimallah, va écrire al-Muwatta, comme il lui est demandé d'élaborer un texte, et il va dire « Bayna Rukhas ibn Abbas wa Shada'id ibn Umar ». Il va écrire un texte qui reprend des fatwas, des positions juridiques, qui se situent à juste milieu, intersection entre les allégements d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu alayhi salam et les positions parfois extrêmes d'Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu arda. Donc il prend un juste milieu. Et ensuite, une autre science va être développée, c'est la science de la principologie, des fondements du droit, usul al-fiqh, avec l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, dans son livre Kitab al-Umm. Et ainsi, on a des ulémas qui se spécialisent dans le domaine du fiqh, ce qu'on appelle les fuqaha. D'autres se penchent sur l'analyse des propos du prophète, alayhi salam, ce qu'on appelle les muhaddithoun. D'autres vont se pencher sur l'étude de le Coran al-Karim, la compréhension des versets du Coran, ce qu'on appelle les fuqaha, les mufassiroun. D'autres vont se pencher sur la science de la vie du prophète, alayhi salam, et tout ce qui émane de lui, son exemplarité, ceux qu'on appelle les ulama al-siyar ou al-maghazi. Et ensuite, on a aussi des ulama qui vont se pencher sur un autre aspect, l'aspect de l'intériorité. Celui qui va te dire si ta prière est valable, en fonction de la rigueur, de la technicité de la pratique, c'est le faqih. Est-ce que ta prière répond aux critères du temps, de l'espace, de la pureté du corps et la pureté des vêtements, etc. Est-ce que le recours, le sujoud, il est fait correctement ou pas? Tout ça, c'est de la technicité que traitent les fuqaha. Par contre, l'intériorité de la prière, l'esprit, la présence de l'esprit, la présence de l'âme, la concentration, la méditation, la sincérité dans la prière, celui qui peut la déceler, ce n'est pas le faqih, c'est le murabbi, celui qui va éduquer. Et c'est ce qu'on appelle les maîtres soufis, les ulama de tarbiya, de tasawuf. Et le terme soufi a souvent tendance à provoquer des... Comment dire ? On est souvent allergique au terme soufisme. Et pourtant, on n'appelait pas ça avant le soufisme, on appelait ça ilm al-suluk. Même un juriste comme Ibn Taymiyyah parlait de ilm al-suluk, la science du cheminement. La science du cheminement, c'est quoi? C'est déceler quelles sont les maladies du cœur, quels sont les microbes, sur le plan imagé, sur le plan spirituel, les virus, les poisons du cœur. Comment soigner le cœur
de la jalousie, de l'égoïsme, de l'égocentrisme, de l'hypocrisie, de la haine, etc. Ces maladies-là, comment les soigner? C'est ce qu'on appelle ilm al-suluk. Le prophète alayhi salam a parlé de al-ihsan, l'excellence dans la foi. C'est cette dimension-là. Eh bien, cette dimension-là, elle est importante. Des ulama qui se sont penchés sur cela, se sont spécialisés dans ce domaine, ce sont ceux qu'on appelle ulama al-tasawuf, les maîtres de la science soufie. Et le premier qui l'a codifié, c'est le Junayd, radiyallahu anhu arda, qui était un grand savant, alim, un sheikh, murabbi. On l'appelle ilm al-suluk, ilm al-akhlaq ou ilm al-tasawuf. Je n'ai pas le temps de m'attarder sur l'origine du terme tasawuf, pourquoi tasawuf, etc. Mais en tout cas, tout ce qui a trait à l'éducation spirituelle, la purification du cœur et de l'âme, ça fait partie, c'est l'essence même de l'islam. Al-ihsan an ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. C'est d'adorer Dieu comme si tu le perçois. Car sache que si tu ne peux le percevoir, lui, il te voit, exalté soit-il. C'est cette dimension-là de prendre conscience de la présence de Dieu parmi nous. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أزنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. 5, le sixième c'est Dieu. 4, le cinquième être avec eux c'est Dieu. Supérieur ou inférieur à ce nombre, Dieu est avec eux où qu'il soit. Dans ton intimité, il est avec toi. Et c'est ce que le prophète alayhi salam dit dans ce hadith. Le deuxième enseignement, c'était cela, la prise de conscience de la nécessité d'un partenaire, de quelqu'un qui t'accompagne, qui t'assiste, un instructeur, un éducateur, un maître d'éducation spirituelle. La référence par excellence, c'est le prophète alayhi salam. Mais on a tous besoin parfois d'une référence. Et sur le plan de la spiritualité, revenons aux références qui sont dans ce domaine. Un maître d'éducation spirituelle, un shir qui peut t'orienter, t'accompagner, t'assister, te conseiller, évaluer ton cheminement spirituel. Tu ne te soignes pas seul quand tu es malade, tu vas chez un médecin. Eh bien, il y a des médecins du cœur. Ce sont eux qui pourront t'orienter, te conseiller, doser la posologie du médicament d'ordre spirituel. Sinon, tu portes atteinte sur le plan physionomique à ta santé à cause de la quantité que tu n'as pas respectée. Troisième enseignement de ce hadith, le prophète alayhi salam leur dit si vous conservez cela, donc la constance, indi, en ma présence, en la compagnie de quelqu'un qui t'éduque, quelqu'un qui a une expérience, qui a une connaissance et qui te fait part de cette expérience. La safahatkum al-malaikatu fi turuqat, un paramètre de sélection, vous serez salué par les anges, walakin sa'atan fa sa'a, mais petit à petit. C'est-à-dire, ne brûlez pas les étapes, respectez votre rythme. Après cette longue introduction, je voudrais rappeler l'importance ou de la nécessité de cette éducation spirituelle. Nous sommes dans un monde aujourd'hui matérialisé, un monde qui a perdu les repères, le sens. Le Coran al-Karim parlait de la jahiliya dans laquelle se trouvaient les bédouins, les arabes des premiers temps de la révélation. Une période de jahiliya, on le traduit souvent par ignorance, mais ce n'est pas uniquement de l'ignorance. Parce que les bédouins, les arabes, étaient conscients et ils connaissaient la gravité des choses et ils avaient conscience qu'ils étaient dans l'égarement. C'est plus que de l'ignorance. J'emprunte cette explication au professeur Roger Garoudi, hafidahullah ta'ala. Je rappelle que le maître Roger Garoudi a aujourd'hui 96 ans. Il ne fait pas bon en France de citer Roger Garoudi. Hein. Sinon, on est vite taxé de négationniste, c'est ça? D'antisémite? Eh bien non. Nous, on ne peut pas avoir la mémoire sélective et on ne peut pas avoir une amnésie historique. Roger Garoudi était le philosophe du siècle, par excellence dans les années 60, les années 70, les années 80, etc. Lorsqu'il a dénoncé la politique du terrorisme d'État de l'État sioniste israélien, un État voyou, on l'a taxé d'antisémite, et puis pour faire bon, parce qu'on ne pouvait pas prouver qu'il était antisémite, puisqu'il était soutenu par des juifs eux-mêmes, et il n'a jamais tenu des propos anti-juifs, mais anti-politique israélienne, on l'a taxé de négationniste et de revisionnisme. Et pourtant, l'ancien ambassadeur de l'État voyou israélien en France, Eli Barnaby, lui-même, qui est historien, sur le plan diplomatique et politique, il est exécrable. Mais sur le plan historique, c'est un historien de qualité. Et il est parmi les historiens qui critiquent la loi Fabius Gesso en disant « On ne peut pas, nous, historiens, accepter que la censure soit imposée à l'égard de la critique historique. » Il est contre la loi qui condamne ce qu'on appelle le négationnisme, le révisionnisme. Garoudi n'a jamais tenu des propos négationnistes comme on les laisse entendre. Pour revenir à sa parole, il parle de la culture du non-sens. El Jahiliya, il dit, c'est une culture du non-sens. C'est-à-dire, c'était une culture. C'était un état d'esprit. C'est une société qui vit dans une vision, qui a un projet de société, mais c'était le projet du non-sens. La barbarie, inculte, une société inculte, barbare, sauvage, qui enterre les filles vivantes, qui passe son temps aux guerres fratricides entre les tribus, au jeu du hasard, à la guerre et à l'alcool. Eh bien, cette société, le prophète, alayhi salam, il l'a réformée de l'intérieur, sur base de quelques paramètres. Parmi ces paramètres, la liaison à Dieu. Et les Arabes vont dire, comme dit le Coran Karim, « Aja'ala al-alihata ilahan wahida, inna haza la shay'un ujab. » Considère-t-il toutes nos divinités comme un seul Dieu ? Cela est quelque chose d'étonnant, on ne peut pas l'accepter. C'est quoi les divinités aujourd'hui ? Le pouvoir, l'argent, le sexe, le plaisir, la relativité, le relativisme à outrance, ce sont devenus des divinités de la société dans laquelle nous sommes. Le paramètre de cette société, c'est le tout relatif. On relativise toute chose, même la notion des valeurs et du sens. Eh bien, c'est une société de non-sens. Aujourd'hui, tout est réduit à des valeurs marchandes. Tout se vend et tout s'achète. Même la dignité de l'homme. Quand on voit ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe en Afghanistan, ce qui se passe en Irak, la dignité de l'homme se vend et s'achète pour une renommée, pour recevoir une poignée sur l'épaule, recevoir une salutation des dignitaires politiques dans ce monde, etc. Quand on voit cela, cette société-là de Jahiliya, le prophète Aïssam l'a réformé à partir de la foi en Dieu exalté soit-il. Notre société aujourd'hui, c'est une société de Jahiliya qui a tendance à relativiser les principes et les valeurs dans laquelle on a besoin du sens, une quête de sens. Et la spiritualité, ce n'est rien d'autre qu'une quête de sens. Pour citer encore une fois Roger Garaudy, il dira « Dire Dieu, c'est dire que la vie a un sens ». C'est exactement le sens du verset du Coran Karim. Qulillahu thumma darhum fi khawdihim yal'abun. Sadaqallahu al-adim. Dis Dieu et abandonne-les dans leur ingratitude de s'amuser. Ta préoccupation doit être Dieu. Par contre, peu t'importe ce qui se passe autour de toi. À partir du moment où tu es en relation avec Dieu et ta préoccupation centrale, c'est Dieu exalté soit-il, tu es le vainqueur. La spiritualité aussi, la nécessité de la spiritualité, pourquoi ? Parce que c'est la garantie de notre cheminement spirituel envers Dieu exalté soit-il. C'est la garantie de notre bonne conduite. C'est un paramètre, c'est une sorte de thermomètre qui te dit la bonne santé spirituelle de ta personne. J'ai commencé en rappelant que le Coran Karim, quand il parle de la spiritualité, il parle de Rabbaniya. Alors, pour arriver aux outils de comment purifier son âme, le Coran Karim ne te dicte pas un programme d'éducation spirituelle, mais il te donne des outils. Les outils, tu vas les habiller en fonction du contexte, en fonction de tes moyens, en fonction de ton parcours, de tes connaissances, de ta détermination, de tes fragilités. Et je voudrais partir de ce verset du Coran Karim. وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ Soyez rabbaniyin dans la seigneurie, proche de Rabb, جَلَّا فِعُلَا, le maître exalté soit-il, suprême, le Seigneur. Ce verset du Coran, si je me penche sur ce verset, de quelle manière a-t-il été compris par les premières générations des musulmans ? On va prendre l'exemple d'un compagnon du prophète, d'un de la génération de Tabi'in et d'un troisième de la troisième génération après le prophète alayhi salam. Le premier, c'est le compagnon du prophète, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu arda. Abdullah ibn Abbas, c'est le cousin du prophète, alayhi salam. La famille du prophète a été éduquée à la table du prophète. Ils ont une certaine une forme de sainteté, mais ils ont une responsabilité aussi. Et le prophète, alayhi salam, a fait des dua pour son cousin et lui dit, Allah, il dit, Allahumma faqqihu fi d-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ô Seigneur, enseigne-lui le fiqh dans le din, la compréhension de la voie de la religion, wa 'allimhu at-ta'wil. Et enseigne-lui l'interprétation, l'exégèse, c'est-à-dire une forme de tafsir. Effectivement, Abdullah ibn Abbas alayhi ridha wassalam était le cheikh al-mufassirin, le maître de l'exégèse coranique. Et il y avait une certaine lucidité particulière. Et il dit de ce verset du Coran, walakin kunu rabbaniyin, il dit ar-rabbaniyin, ar-rabbaniyun, al-fuqaha, al-hulama, al-hukama. Ar-rabbaniyun, pour lui, c'est al-fuqaha, al-hulama et al-hukama. Al-fuqaha, ce sont ceux qui ont la compréhension. Al-fiqh, en arabe, c'est comprendre. D'où la définition de l'fiqh, du droit musulman, chez l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, al-ilm bil-ahkam al-shar'iyyah al-amaliyyah min adillatiha tafsiliyyah min adillatiha tafsiliyyah. La connaissance des règles juridiques. Ça, c'est au niveau du droit. Le Cheikh Sadiq Sharaf rahimahullah disait du fiqh amalul aqli fi fahmi an-nas, c'est l'activité, l'activité rationnelle pour la compréhension d'un texte, c'est-à-dire l'activité de la raison, la rationalité du texte, c'est-à-dire une compréhension. Et le prophète alayhi wa alayhi salam dira man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fi ad-din, celui pour qui Dieu veut le bien, il lui enseigne le fiqh du din, la compréhension, hein, les subtilités de la religion, la compréhension du din, de la voie qui mène à Dieu, exalté soit-il. Et il dira, « Fuqaha, hulama, hukama ». Hulama, ce sont des gens qui sont magnanimes, ce sont des gens qui ont une certaine lucidité. Hukama, et qui ont une sagesse. C'est-à-dire que le Rabbani, c'est quelqu'un qui comprend, mais qui peut adapter cette compréhension en fonction du contexte dans lequel il est, avec dosage, sans brûler les étapes. Un des outils de l'éducation spirituelle au quotidien, c'est de savoir qui tu es. Et nous, on s'imagine qu'on est tous les mêmes, une copie de l'autre. On adopte le même programme d'éducation spirituelle, on écoute à droite, à gauche ce qui se dit, et on s'imagine qu'on peut directement mettre en application, et parfois on brûle des étapes. Et ça peut être très très dangereux. Le prophète alayhi wa alayhi salam dira dans le hadith sahih, fi sahih, il dit inna hadha ad-din matin fa aghilu fihi bi rifq. Cette religion, cette voie, elle est matin, solide, fa aghilu fihi bi rifq. Inscrivez-vous dans cette voie, vous pénétrez dans la voie avec douceur, bi rifq. Ma shadda ad-din ahadun illa ghalabah. Dans le hadith sahihain, ma shadda ad-din ahadun. Chaque personne qui est shadid, qui rentre avec solidité, avec fermeté dans la voie, dans la religion, illa ghalabah, la religion le terrassera. C'est-à-dire, il va perdre. Il ne pourra pas tenir. Hein? Le hadith par lequel on a commencé, sa'atan fasa'a, petit à petit. Ne brûlez pas les étapes, respectez votre propre rythme. Et la première des conditions, le premier des moyens et des outils de ce cheminement, de la purification de l'âme au quotidien, c'est de savoir qui je suis. Qu'est-ce que j'ai besoin? Tu vas diagnostiquer la maladie ou les maladies de ton cœur. Savoir où est-ce que tu te situes. Quels sont les malaises? Quand tu as fait un diagnostic, à ce moment-là, tu peux demander au médecin des cœurs de te proposer un remède. Mais tu l'accompagnes. En islam, le malade, c'est un agent, ce n'est pas un patient. C'est-à-dire, je ne viens pas chez un médecin et il décide pour moi, point final. Non, non. Quand je vais voir quelqu'un, un cheikh ou un éducateur ou un instructeur ou un formateur, je dialogue, je discute avec lui, je parle avec lui et c'est ensemble qu'on va trouver un remède. Je suis un agent, je participe du remède. Donc, hukama, fuqaha, hulama, hukama. Hakim, c'est quoi? Un hakim, c'est quelqu'un qui est sage. Il sait ce qu'il a besoin et où il doit aller. Où est-ce qu'il se situe? Je me situe à quelle hauteur dans mon cheminement envers Dieu exalté soit-il? À quelle hauteur du chemin? Quels sont mes manquements? Quelles sont mes fragilités? Quels sont les acquis? C'est pour ça qu'on a besoin de temps à autre d'élaborer un état des lieux de notre être. C'est pour ça que le prophète, alayhi salam, de temps en temps, il yatawakhaluna bil maw'idha makhafat as-sa'amati alayna. De temps à autre, comme disent les compagnons, il faisait une maw'idha. Al-maw'idha, comment on dit ça en français?
Introspection.
Oui, quand il faisait un discours de... Allez. Monsieur Oussama, une exhortation, mashallah. Une exhortation. Il exhortait ses compagnons de temps à autre. Al-maw'ida, un rappel. Pourquoi? Par crainte qu'il se lasse, que les compagnons se lassent. Ce n'était pas tous les jours. Ce n'est pas tous les jours halal et haram et bid'a et sunna et sahih et da'if. Un imam chez nous avait écrit un poème, le Cheikh Mohamed Sarir, et il dit: سواكن وجلباب نظيف ولحية وألف شعار في المساجد تذكروا أيلها وأبناء المشارق تقبروا أيلها وأبناء المغارب تكفروا. On se préoccupe aujourd'hui facilement de halal et haram et bid'a et sunna et sahih et da'if, et on juge les gens dal, kafir, mubtadi', fasiq, etc. C'est très facile. Il dit on se préoccupe de siwak, de jilbab et de lihya, la barbe, le siwak, le jilbab, masha'Allah. Wa alfu shi'arin fil masajid tuzkaru. Mille et un slogans dans les mosquées. Ayulha wa abna'u al-mashariq tuqbaru. On se préoccupe de cela alors que la jeunesse en Orient, elle se fait enterrer vivante. Regardez ce qui se passe actuellement dans certains pays d'Afrique. Regardez ce qui se passe en Irak, ce qui se passe en Afghanistan. Ayulha wa abna'u al-magharibi tuqfaru. Quant à nous ici, on se préoccupe d'éléments secondaires, de futilité, et la jeunesse en Occident se fait dénuder de son identité. Et nous, on se déchire entre nous par des futilités. Récemment, je rencontre quelqu'un pour... on devait se voir pour discuter de certains éléments, et au moment où on se rencontre, je vois que l'heure de la prière est proche. Et je lui propose d'aller dans une mosquée très proche, faire la prière et qu'on puisse commencer juste après la prière de l'Asr. Il me dit, khair, inshallah, il y a une mosquée qui se trouve à peu près 100 mètres, et il me propose d'aller dans une autre mosquée beaucoup plus loin. Je n'y vois pas d'inconvénient, mais pour gagner du temps, je lui dis, mashallah, en riant, je dis, mashallah, tu es un gratteur de hasanat. Tu veux que les pas soient nombreux jusqu'à l'autre mosquée. Il me dit en toute simplicité, non, 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 mon frère, mais je ne veux pas prier dans cette mosquée. Ah bon? Baytullah, ya akhi, qu'est-ce qui se passe? Je n'avais pas compris. Il me dit, non, 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 l'imam dans cette mosquée, il fait la bid'a. Ah, mashallah. Et il est musulman ou il n'est pas musulman? La prière derrière lui est valable ou pas? Il me dit, oui, mais je ne comprends pas, c'est quoi la bid'a? Qu'est-ce qui te gêne? J'étais intrigué. Il dit, oui, l'imam, il dit, quand il dit Allah Akbar, il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et puis il commence la Fatiha. A'ouzou billah. Dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, kafar, yani, il est khalas, il est sorti de l'millah, il est devenu mubtadi', dal, fasiq, parce qu'il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Parce que dans certaines écoles, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ne se dit pas à voix haute, on le dit à voix basse. Certaines autres écoles considèrent qu'elle fait partie de la Fatiha, donc il faut la dire, etc. Et il y a des divergences entre les fuqaha. Excusez-moi, des futilités. L'imam, il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc on ne va pas prier derrière lui. A'ouzou billah. Et ça, c'est le fait de s'attacher à la technicité. Et alors, on se qualifie parfois de dal, mubtadi', fasiq, etc. On se préoccupe de cela, notre jeunesse se fait dénuder de son identité autour de nous. Et la jeunesse en Orient, elle se fait enterrer vivante. Les stratégies, les grandes thèses qui sont développées, les assises, etc. Et nous, les musulmans, on est encore en train de se disputer par des futilités, autour de futilités. Il met les mains ici, il met les mains là, il met les mains là, il laisse pousser la barbe, il ne laisse pas pousser la barbe. Il dit « Sadaqallah al-Adim », il ne dit pas « Sadaqallah al-Adim ». A'ouzou billah. Alors que la maladie qui s'attaque, qui gangrène notre communauté, c'est l'absence de l'amour fraternel. C'est un signe d'absence de spiritualité. Donc, premier élément autour de Rabbaniya, c'est avoir cette hikmah, la sagesse. C'est quoi la hikmah? C'est dire la parole adéquate au moment adéquat face à la personne adéquate. Les ulama de la logique de l'mantiq, la dialectique, ils disent al-hikmah mutabaqatu al-kalam fi mutabaqatu al-kalam li muqtada al-hal. L'adéquation d'une parole en fonction d'une situation donnée. C'est-à-dire la parole adéquate au moment adéquat face à la personne adéquate. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu arda rentre à la mosquée, les compagnons sont furieux, Omar radiallahu anhu arda qui brandit son épée et qui dit: celui qui dit que Mohammed est mort, je lui tranche le cou. L'amour du prophète alayhi salam l'a aveuglé face au fait que le prophète était humain. Et Abu Bakr Siddiq lui dit: calme-toi ya Omar, il n'écoute pas. Il monte sur la chair, il dit à Yohannas: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. Celui qui adorait Mohammed, خلاص, Mohammed est décédé, عليه وعلى آله السلام. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. Celui qui adore Dieu, Dieu est éternel, il ne meurt pas. Et il rappelle un verset du Coran Karim: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. Mohammed n'est qu'un messager parmi lesquels des messagers sont passés avant lui. S'il meurt ou il se fait assassiner, allez-vous renier votre foi, revenir sur vos pas. Celui qui fait ça ne porte atteinte qu'à sa propre personne. Et Dieu récompensera les reconnaissants. Lorsqu'il rappelle ce verset du Coran Karim, Omar radiallahu anhu arda tombe à même le sol. Et il dit: Wallah, c'est comme si je n'avais jamais entendu ce verset du Coran. C'est comme s'il n'existe pas dans mon conscient. L'amour du prophète alayhi wa alayhi salam l'a empêché de déceler, de voir réellement que le prophète était un humain, qu'un beau jour il allait nous quitter. Alayhi wa alayhi afdalu salati wa azka taslim. La sagesse d'Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu arda, il a trouvé la clé adéquate face au cœur adéquat. Nous, on fait une exhortation et on a l'impression que telle personne m'a compris, tout le monde m'a compris. Tout le monde a compris le message de la même manière. Non, chacun a un degré de compréhension différent. Chacun a une nature différente. Chacun a des considérations, des parcours, des fragilités différentes. Donc il faut accepter que ton discours soit compris de manière différente. Et à toi de travailler, à toi de clarifier, à toi de rectifier. Ce n'est pas parce que quelqu'un m'a entendu qu'il a pris conscience de l'importance d'un élément. À moi de rappeler. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الزِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Rappelle parce que le rappel est profitable aux hommes de foi. Ça, c'est le compagnon Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu arda. Voyons voir maintenant quelqu'un parmi les tabi'in, qui est l'imam al-Hassan al-Basri, radiallahu anhu arda. Une figure phare de l'éducation spirituelle, dans la tradition mystique soufi notamment. Et il était parmi les tabi'in, de qui dira Sayyida Aisha, radiallahu anha wa alayhi salam, elle dit « Kana kalamuhu yushbihu kalam al-anbiya ». Lorsqu'il parlait, ses propos étaient identiques aux propos des messagers. C'est-à-dire, il parlait avec une profondeur, une sagesse. Al-Hassan al-Basri radiallahu anhu arda dira de ce verset du Coran al-Karim Fuqaha ahlu ibadatin wa taqwa. Rabbaniyun, les hommes de la seigneurie, ce sont qui? Il dit ce sont les fuqaha, ceux qui ont la compréhension, ahlu ibadatin wa taqwa. Ceux qui ont l'exigence de la ibada, de l'adoration, ils ont une rigueur, et la taqwa, l'exigence de la piété. C'est-à-dire ceux qui joignent à le sentiment de la foi la pratique. C'est-à-dire ils ont une rigueur, ils s'imposent une éducation spirituelle. Mais ils comprennent, ils savent, yafqahuna anillah, ils savent ce que Dieu attend de leur part. Et ce qu'ils doivent accomplir comme responsabilité, mais ils l'accomplissent avec référence à l'exemplarité du prophète, alayhi salam, avec rigueur spirituelle, c'est-à-dire taqwa. La conscience éveillée de Dieu, exalté soit-il. Je m'attarde sur la génération qui suit. Un des imams, notamment un de parmi les imams de Ahlul Bayt, de la famille du prophète, alayhi salam, l'imam Ja'far al-Sadiq, alayhi rida al-salam. Qu'est-ce qu'il dit de ce verset du Coran Karim? il dit Rabbaniyun, ay fuqaha mubsiruna bi musmi'una bi sama'il qulub mubsiruna bi a'yunil ghuyub. Ceux qui ont le fiqh, la compréhension, mais qui décèlent, qui voient au-delà de ce qui est caché par le regard du caché et qui entendent bi sama'il qulub par l'oreille du cœur. C'est-à-dire ceux qui perçoivent par le cœur, ils décèlent. Hein, quand tu entends, subhanallah, quand vous lisez dans le Coran Karim, surat al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ. Chante la pureté de Dieu, les louanges de Dieu. تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ, les sept cieux, وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ, la terre et ce qu'il y a dedans. وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, et toute chose glorifie les louanges de Dieu, glorifie Dieu. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ, mais seulement vous ne pouvez percevoir leur chant de louange. Mais subhanallah, Dieu permet à qui il veut de ses serviteurs de voir ce que Dieu veut ou d'entendre ce que lui veut. Il peut te dévoiler une part du caché à qui il veut. Lorsque Sidna Omar radiallahu anhu arda est sur le mimbar, il fait la khutbah et il parle à la communauté. Et à un moment donné, il arrête son discours, il dit « Ya Sariya al-Jabal al-Jabal ». Ô Sariya, reviens vers la montagne. Sariya se trouve à des centaines de kilomètres en expédition militaire. Et Omar radiallahu anhu arda dit cela, les compagnons sont étonnés, mais qu'est-ce qui lui arrive? Et il laisse passer la chose. Quand Sariya revient, il l'interpelle. Est-ce qu'il y a eu un moment, quelque chose de particulier, de spécial, qui s'est opéré devant toi? Il dit, certes, un vendredi à l'heure de Salat al-Jumu'ah, nous étions en plein combat, le moment crucial de la bataille, et il dit, nous allions perdre la bataille. Et Dieu m'a fait entendre le timbre d'une voix comme celle de Omar, radiallahu anhu arda, et qui m'a dit de revenir vers la montagne. Et c'est ce qu'on a fait, et ça a été la grâce par laquelle on a été sauvés. Allah subhanahu wa ta'ala lui a retiré les voiles, il pouvait voir ce qui se passait sur la scène, sur le champ de la bataille. Ah, oh, parce qu'il voyait par la lumière de Dieu, parce que c'était des gens intimes de Dieu. Musmi'ina bi sama'il qulub, c'est des gens qui entendaient de par le cœur, et mubsirina bi a'yunil ghuyub, qui percevaient au-delà de ce qui est caché. Quand on acquiert ces caractéristiques-là, eh bien, le cheminement spirituel nécessite de nous des outils, des moyens. Maintenant, en fonction de notre réalité au quotidien, ça, c'est l'idéal qu'on doit essayer auquel on aspire. Mais la réalité, elle est autre. Nous ne sommes pas des saints, nous ne sommes pas la première génération, ni de la sainte famille purifiée du prophète, alayhi salam, ni des compagnons, radiallahu anhum. Mais nous sommes le commun de mortels parmi les musulmans, les croyants. Et donc nous sommes exposés à des risques, à des fragilités. Le Coran nous appelle à l'idéal, celui de la taqwa, la crainte révérentielle de Dieu. Mais atteindre le degré de la crainte révérentielle de Dieu doit nous faire prendre conscience que c'est tout un cheminement et qu'il y a des risques de ne pas l'atteindre. La preuve, à un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Inna allazina attaqaw » ceux qui ont atteint la piété. Donc ils sont dans le cadre de la piété, de la conscience éveillée de Dieu. Inna allazina attaqaw iza massahum ta'ifun min ash-shaytani tazakkaru fa iza hum mubsirun. Sadaqallahu al-azim. Quand ils sont effleurés par une part de Satan, ils se rappellent. Donc ils ont la taqwa, mais ils sont exposés au risque. Ils sont exposés au risque de Satan. Pourtant, ils ont la taqwa. Le Coran le confirme. Inna allazina attaqaw, ceux qui ont atteint la piété, la conscience éveillée de Dieu, la crainte révérentielle de Dieu, iza massahum ta'ifun min ash-shaytan, quand ils sont effleurés par une part de Satan. L'oubli, l'insouciance, la fragilité, les risques, les désirs, les plaisirs, les tentations, les passions, etc. اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا. Ils se rappellent. À ce moment-là, ils reviennent à eux, au fin fond de leur intériorité. تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. S'ils invoquent Dieu et ils évoquent Dieu, exalté soit-il, ils sont certes clairvoyants. Allah subhanahu wa ta'ala te donne une lucidité, une lumière qui te permet de revenir vers lui, exalté soit-il, de prendre conscience de la gravité de ton état d'âme. Fa iza hum mubsirun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un de pieux est exposé au risque? Certes, oui. C'est ce qui fait dire au grand maître soufi Ibn Atta Illah al-Sakandari rahimahullah ta'ala, qui a écrit ce qu'on appelle al-hikam. Al-hikam al-ata'iyya, les sagesses. D'ailleurs, je vous invite à lire cet ouvrage. Il a été traduit en français récemment. Il est très, très bien traduit. Enfin, c'est mon appréciation, je peux me tromper. Mais à mon sens, il est très bien traduit en français. Ce sont les sagesses d'Ibn Atta Illah al-Sakandari radiyallahu anhu arda. Il dit à un moment donné, 262 ou 64 sagesses, dans l'une de ces sagesses, il dit « ma'asiyatun ». Non. Il dit ربما فتح لك باب الطاعة ولم يفتح لك باب القبول وربما قدر عليك المعصية فكانت سببا في الوصول. Il est probable que Dieu entre ouvert la porte de l'adoration et il n'a pas entre ouvert la porte de l'acceptation. Et il est probable que Dieu a écrit que tu allais accomplir le péché et qu'il est la grâce par laquelle tu es arrivé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est probablement tu vas accomplir Dieu a entrouvert la porte de l'adoration. Il t'a demandé de l'adorer, accomplir la prière, accomplir le jeûne, accomplir zakat, al-hajj, etc. Et il n'a pas ouvert la porte de l'acceptation. C'est-à-dire, il t'a donné la capacité d'accomplir les gestes, d'accomplir la pratique, mais Dieu n'a pas accordé son acceptation. Pourquoi? Parce que l'intention n'y est pas. Le premier hadith dans Sahih l'imam al-Bukhari radiyallahu anhu arda, hadith Omar radiyallahu anhu arda, innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Les actes valent par leur intention. Un homme rentre dans une mosquée, il fait la prière et à la même place, il y a toujours un homme âgé qui le regarde et quand il finit la prière, il vient chez lui, il lui dit mashallah ka'annaha salatu rasulillah. C'est comme si c'était la prière du prophète, alayhi wa alayhi salam. Il est émerveillé par la prière de ce jeune garçon. C'est une histoire véridique. Hein. Et ça se répète souvent. Un beau jour, le jeune garçon rentre dans la mosquée, et il dit aujourd'hui, ce sera le contraire. Il accomplit la prière, et le monsieur le regarde, et puis il vient chez lui, il lui embrasse la tête, il lui dit, Wallahi, je jure par Dieu que cette prière, elle est acceptée par Dieu. Et l'autre lui dit, A'ouzou billah. Il lui dit, je jure par Dieu que cette prière n'est pas acceptée. Il lui dit, mais pourquoi tu dis ça? Ta prière, elle est faite correctement, bien, au niveau de la pratique, la technicité, comme il se doit. Il lui dit tout simplement, li'annani sallaytu halak. Je l'ai faite pour toi. Il lui dit, comment? Kaif? Il lui dit, mais tous les jours, tu me dis ma prière, kannaha salatu rasulillah. C'est comme si c'était la prière du prophète. Aujourd'hui, j'ai décidé de la prier pour toi. Il lui dit, mais comment tu l'as prié pour moi? Et il dit, ben, l'intention n'y était pas. C'était pour te faire plaisir. Et comme l'intention n'y était pas, cette prière n'est pas acceptée par Dieu. Parce que niya n'était pas de prier pour Dieu, mais c'était de te défier face à ce que tu me dis quotidiennement. Donc, il y a cette dimension de niya, d'intention qui est centrale, fondamentale. Donc, et il dit, si ces gens-là qui ont la piété, il est probable qu'il a accompli une adoration et que Dieu n'a pas entrouvert l'acceptation. Dieu ne l'a pas accepté parce que l'intention n'est pas sincère. Tu ne l'as pas faite pour l'amour de Dieu parce que l'intention est trichée. Et il dit dans sa sagesse, il est probable que Dieu a écrit l'accomplissement du péché et il est la grâce ou la cause, plutôt la grâce par laquelle tu es arrivé. Ah, oh, je commets le péché, j'arrive à la porte de Dieu, certes. Il l'explique dans la sagesse qui suit. Il dit ma'siyatun awrathat zullan wa inkisaran khayrun min ta'atin awrathat 'izzan wa istikbara. Le péché qui développe en toi, qui engendre en toi le regret et l'humilité est meilleur que l'adoration qui développe en toi l'orgueil et la fierté. Un péché qui développe le regret, l'humilité, je viens vers Dieu, je demande pardon, je regrette mon acte au fin fond de moi-même, je me remets en question, c'est meilleur qu'une adoration par laquelle je vais développer, regardez-moi, le m'as-tu vu, la fierté, l'orgueil, se dire, hein, moi j'ai prié à la mosquée, hein, ana saddaqt, ana sallayt, ana tasaddaqt, ana qara'at al-Qur'an, j'accomplis la lecture du Coran, j'ai prié, j'ai fait sadaqa, aujourd'hui j'ai prié, etc., 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 ana min ahli al-jannah, a'ouzou billah. Et considère qu'il est khalas, il est arrivé à la porte du paradis. Ça, c'est de l'orgueil. Le premier péché qui a été accompli à l'encontre de la volonté de Dieu par Satan. Al-kibr, wal-iyadu billah. Au contraire, si le péché développe en toi de l'humilité, le regret, eh bien ce péché-là, il a été la grâce par laquelle tu es arrivé à la porte de Dieu. Tu as accompli un péché, mais ce péché a éveillé en toi la prise de conscience et tu as développé la tauba, le regret, la remise en question. Eh bien, il est la grâce par laquelle tu es arrivé. Fakana sababan fil wusul, arrivé devant la porte de Dieu par le repentir, par le regret, par la remise en question. Quels sont ces éléments qui nous permettent d'acquérir cette crainte révérentielle de Dieu, cette taqwa, cette purification de l'âme? Premièrement, les piliers pratiques de l'islam et qui restent irremplaçables. Tout à l'heure, je donnais un cours, quelqu'un m'a posé la question, est-ce qu'à un moment donné, dans notre cheminement spirituel, avec la pratique rituelle, etc., on peut atteindre un degré qui nous permet de considérer que cette pratique n'est plus un besoin? Je dis non, catégoriquement. Hein, il y a des gens qui planent. Ils fument de l'esprit, je pense. Et s'imaginent que, khalas, moi, j'accomplis telle pratique, khalas, on plane et je suis arrivé à la porte de Dieu. Si la pratique rituelle te permettait à un moment donné d'atteindre un degré de proximité de Dieu et de délaisser cette pratique parce que tu as atteint ce degré-là, le premier qui l'aurait appliqué, ce serait le prophète, alayhi wa alayhi salam. Et le prophète disait, avant de mourir, « Wa ju'ilat qurratu 'ayni fi s-salah » Et le moment de mon intimité, de mon apaisement intérieur, « qurratu 'ayni », c'est-à-dire la tranquillité, le silence intérieur, l'apaisement, de mon harmonie intérieure, « Wa ju'ilat qurratu 'ayni fi s-salah » C'était la prière. Donc ça veut dire qu'il en avait besoin. Il avait besoin de cette relation avec Dieu, de cette rigueur, de cette pratique rituelle, qui vient raffermir le cœur, qui vient renforcer la dimension de la foi. Premier élément, ce sont les pratiques rituelles, à savoir la prière, le jeûne, l'aumône purificatrice et le pèlerinage. Quand vous regardez très rapidement ces quatre piliers pratiques après la shahada c'est aussi un acte. C'est pour ça que ça se discute, peut-être certains ne seront pas d'accord, mais moi je suis contre l'appellation du musulman pratiquant et musulman non pratiquant. À partir du moment où tu es musulman, tu es pratiquant. Tu n'observes peut-être pas un rite qui est de l'ordre de l'obligatoire, donc c'est un manquement, mais tu es un musulman, tu pratiques. Tu pratiques quoi ? Tu pratiques la foi. La foi qui est un acte de cœur. Al-Iman, il se pratique par quoi ? Tu rentres en islam par la shahada, al-shahadatan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Je témoigne qu'il n'y a rien de divin si ce n'est Dieu, et je témoigne que Muhammad alayhi wa alayhi salam est le messager de Dieu. Le témoignage en islam, c'est un acte du cœur, parce que c'est une adhésion à un message, à des principes. Donc tu pratiques la foi dans ton cœur. Si tu observes pas la prière, tu es en état de manquement, en état de péché, mais tu es musulman. Et ne dites pas musulman pratiquant, musulman non pratiquant. Parce qu'on est en train de nous catégoriser de la sorte pour dire les musulmans non pratiquants sont les bons musulmans. Celui qui ne porte pas le foulard, celui qui ne fait pas la prière, qui ne va pas à la mosquée, etc., etc. Ce sont les musulmans ouverts, modernes, avec qui on peut s'entendre, on peut se comprendre, etc. Avec qui on va négocier, on va dialoguer, ceux qui vont vendre leurs principes. Par contre, celui qui fréquente la mosquée, par contre, la fille qui dit « moi, je suis musulmane et j'ai décidé de porter le foulard en âme et conscience, de m'habiller d'une certaine manière, mais je suis citoyenne française de confession musulmane. Je suis une citoyenne spirituelle, j'ai un engagement responsable citoyen façonné par le cheminement de ma foi. » Celle-là, on dit « il y a quelque chose de pas net. Elle est manipulée par des imams, par des intégristes, des conférenciers, etc. etc. » Et on lui prête un double discours. Non ? Je suis musulman, être musulman, c'est mon entité, ma relation avec Dieu, à partir de la foi et à partir d'une rigueur pratique. Donc, la première dimension, c'est l'acte intérieur de la foi, le témoignage. Ensuite, la prière. La prière, qu'est-ce que dit le Coran Karim ? Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière éloigne du blâmable et de la turpitude. Donc, elle te rapproche de la piété. Lorsque le Coran Karim parle de zakat, il dit « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » Prélève de leur bien, de leur richesse, une part de leur bien par laquelle tu vas les purifier. La prière écarte du blâmable et de la turpitude parce qu'elle t'empêche, elle te retient, elle essaye de t'arracher à la dépendance du matériel, à la dépendance des tentations, des passions, etc. La zakat, tu donnes, tu partages le don et l'abandon pour l'amour de Dieu. Pour te purifier de quoi ? Du matérialisme, de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Tu apprends à purifier ton argent en donnant, en partageant. Tu apprends le sens de la fraternité. Le jeûne de Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus-siyamu kama kutiba 'alal-lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu al-'azim. Ô vous les hommes de foi, le jeûne vous a été prescrit comme il le fut à ceux qui vous ont précédés. Peut-être atteindrez-vous la piété, la conscience éveillée de Dieu, la crainte révérentielle de Dieu. L'objectif du jeûne, c'est de t'arracher au flux de la dépendance physique, de la nourriture et autres, et t'apprendre à vivre avec un minimum la maîtrise de tes instincts, la maîtrise de ton être, la maîtrise de ta volonté, reconnaître la valeur des biens, des bienfaits que tu as entre tes mains, afin d'acquérir la taqwa, la crainte révérentielle de Dieu exalté soit-il. Prendre conscience que Dieu est avec nous, où que l'on soit. Ce qui m'empêche de manger quand je suis seul chez moi. Personne ne me voit, mais je prends conscience que Dieu est avec moi et je n'offense pas la volonté de Dieu. Le pèlerinage, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle du pèlerinage, « وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَالتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ » Et prenez votre moyen de subsistance, le meilleur des moyens de subsistance, c'est la taqwa, la piété. « وَالتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ » Et craignez-moi, ô vous qui êtes dotés d'une intelligence. Donc tous ces outils pratiques nous mènent à nous baigner dans le fleuve de la piété. Ce sont des moyens. Donc, essayer de les acquérir ou de les entretenir. Les entretenir, un compagnon est venu chez le prophète, alayhi salatu wassalam, et lui dit, « Ya Rasulallah, salawatu rabbi wa salam alayhi. » Les prescriptions, quelles sont les prescriptions que l'islam m'impose ? Il lui dit, « Salli khamsak, accomplis tes cinq prières. « Wa zakki malak, et purifie tes biens. » Et jeûne ton mois, c'est-à-dire Ramadan. Il lui cite les piliers pratiques. Et l'homme dira au prophète, alayhi wa alayhi salam, « Wallahi ya Rasulallah, la azidu ala hadha wa ala dhalika wa la anqus. » Je ne rajouterai rien à cela et je ne diminuerai rien de cela. C'est-à-dire, je vais me limiter à la pratique des cinq prières, pas une prière en plus. Le jeûne du mois de Ramadan, khalas, pas un jour en plus. Parce qu'il disait, « Inna shara et al-islami kathurat alayhi. » Il y a trop de prescriptions, c'est trop pour moi. Et le prophète lui dit, limite-toi à cela. Alors il dira, je me limiterai à ça. Et le prophète alayhi salam va dire à ses compagnons, aflaha in sadaq, aflaha in sadaq, aflaha in sadaq. S'il est véridique, s'il est sincère, il aura la félicité, c'est-à-dire il réussira. S'il se limite à ça et il tient bon, il réussira. Ça veut dire, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité de ce que nous faisons. Hadith dans Sahih Muslim d'Abi Huraira radiallahu anhu arda, Inna Allah la yanduru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Dieu ne pose pas son regard sur vos faces et vos richesses, mais il pose son regard sur vos cœurs et vos œuvres, l'intériorité et l'application de manière conforme aux prescriptions. D'autres outils. Parmi les outils fondamentaux de l'éducation de l'âme et la purification de l'âme au quotidien, j'avais dit tout à l'heure, l'élément principal, c'est la connaissance de son être. Savoir qui nous sommes, quels sont nos défauts, quels sont les acquis, et établir un état des lieux. Deuxièmement, ce sont les piliers pratiques. Troisièmement, c'est de savoir quels sont les poisons qui s'attaquent à nous. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans l'éducation spirituelle, il met en évidence... les poisons qui s'attaquent à l'homme, au cœur. Et il dit à un moment donné, « La Buddha li salah al-nufus min tark al-fudul. » La purification du cœur nécessite l'abandon de l'excès. C'est quoi les excès ? Il en cite quatre. Il dit « Tark al-fudul il-kalam » l'abandon de l'excès de la parole. Apprendre à se taire de temps à autre. Apprendre à se taire. Et à écouter le silence. Maryam alayha salam, lorsqu'elle tombe enceinte de Isa alayhi salam, elle va accoucher, elle dira à un moment donné, lorsque son peuple l'interpelle, Inni nazartu lirrahman sawman falan ukallima al-yawma insiya. J'ai promis à mon Seigneur une abstinence. A sawm ici, c'est l'abstinence. C'est quoi l'abstinence? Falan ukallima al-yawma insiya. L'abstinence de la parole. Je n'adresserai la parole à quiconque aujourd'hui. C'est-à-dire, le silence va prendre ma défense. Et effectivement, le silence et la méditation, etc. Allah subhanahu wa ta'ala a fait parler l'enfant, qui était un des miracles du prophète Isa alayhi salam, Jésus sur lui la paix. Apprendre à se taire. Apprendre à se taire, ça veut dire se préoccuper par autre chose que les futilités habituelles. Hein, le prophète Isa disait à un de ses compagnons, « An yakuna lisanuka ratban bi zikrillah » Que ta langue soit allégée au rappel de Dieu, exalté soit-il, à l'évocation de Dieu. L'abandon de l'excès de la parole. L'abandon de l'excès du sommeil. C'est-à-dire, comme dit le Coran al-Karim, sourate Dhariyat, كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Ceux qui dorment très peu durant la nuit et au moment du sahur, le dernier tiers de la nuit, yastaghfirun, ils implorent le pardon de Dieu. L'abandon de l'excès du sommeil. L'excès du sommeil est un des poisons du cœur. L'excès de la parole est un des poisons qui s'attaque au cœur. Ensuite, l'abandon tarkumu fudul at-ta'am, l'abandon de l'excès de la nourriture et de la boisson. Hein, c'est, vous savez, manger, c'est un art. C'est un art de manger. On ne mange pas à n'importe quelle heure, on ne mange pas n'importe quoi, on ne mange pas n'importe comment. Subhanallah, un des signes de la fin des temps, comme il est rapporté dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlera de certaines catégories de personnes, et il dit « yadharu fihim us-siman ». Une des caractéristiques de ces gens, c'est qu'ils prennent du poids, c'est-à-dire que peu leur importe leur ligne, c'est-à-dire ils se préoccupent de leur courbe. C'est-à-dire, ce sont des gens qui, peu leur importe ce qu'ils mangent, comment ils mangent. Bien sûr, halal, mais manger, c'est un art. Tarku fuduli at-ta'am, l'abandon de l'excès de la nourriture. C'est pour ça que Dieu, exalté soit-il, nous a prescrit le jeûne. C'est une éducation, une maîtrise de soi, de ses instincts. Et le quatrième élément, tarku fuduli mukhalatatil anam, l'abandon de l'excès des fréquentations. Apprendre à se retrouver seul. Se retirer, la méditation. Quand le prophète alayhi salam s'est retiré seul dans une grotte pendant plusieurs jours et à répétition, à un moment donné, la révélation lui est accordée parce qu'il a fait le vide autour de lui. Il a pu faire une introspection, une remise en question, seul, puisque tu reviendras vers Dieu. Tu reviendras vers Dieu seul comme il t'a créé la première fois. Ça, c'est un troisième aspect des outils et des moyens. Un quatrième aspect, c'est, à mon sens, c'est la lecture du Coran al-Karim. La psalmodie du Coran. Dans sourate al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا » Sadaqullah al-Adim. Nous révélons du Coran ce qui est un shifa et une rahma. Une guérison et une miséricorde, c'est-à-dire un traitement et une prévention. Pour qui ? Lil mu'minin. Le traitement et la prévention pour les hommes de foi. Et ce qui ne rajoute à l'ingrat qu'un éloignement. Wa la yazidu dhalimina illa khasara. La psalmodie du Coran soigne le cœur. Subhanallah, à un moment donné, j'accompagnais quelqu'un en phase finale, un frère, rahmatullah alayhi, qui est décédé maintenant. Et donc, je lui rendais visite de temps à autre à l'hôpital. Et lors des visites, je veillais à ce que la visite soit courte et que ce soit un moment d'échange pour lui permettre d'espérer un petit peu, d'espérer en la guérison et en la miséricorde de Dieu qui s'exprime de la manière dont Dieu voudra, la guérison ou le décès ou peu importe. Et alors, c'était des lectures de Coran. Et subhanallah, dans la chambre à côté, il y avait une dame d'un certain âge avancé qui m'entendait lire le Coran. Cette dame n'était pas musulmane. Et elle m'entendait lire le Coran et elle me saluait en passant dans le couloir.
bonjour, et tout simplement. Donc je n'avais pas de lien avec elle. Et le frère est décédé, rahmatullahi alayh. Les jours sont passés, et je reçois un appel de l'hôpital me demandant si je voulais bien venir d'urgence, parce qu'il y avait une personne qui voulait me voir. Et en fait, c'était cette dame qui était en phase finale aussi, qui était en train d'agoniser. Et elle a demandé, elle dit, je voudrais le monsieur qui chante le Coran. Elle disait, celui qui chante le Coran. Et elle a demandé à ce que je vienne et que je l'accompagne dans son départ par la lecture du Coran. Elle n'était pas musulmane. Et subhanallah, quand je lui ai demandé, mais pourquoi vous m'avez fait appel à moi et pas quelqu'un de votre tradition spirituelle. Elle dit, parce que ce que vous dites, je ne comprends pas ce que vous chantez, mais en tout cas, ça m'apaisait. Ça m'apportait, ça me réconfortait. Subhanallah, le Coran, il a un effet sur la personne. Et effectivement, on l'a accompagné dans ces derniers instants par la lecture du Coran, et elle est décédée, accompagnée par la lecture du Coran. Et quand elle est décédée, j'ai dit « Rahmatullahi alayha ». Dieu donne sa miséricorde à qui il veut, exalté soit-il, subhanahu wa ta'ala. Quand le Coran dit « on fait révéler du Coran ce qui est un shifa et une rahma, une guérison et une miséricorde », le Coran, il a une force. Lorsque tu cites le Coran, lorsque tu lis le Coran, il t'aide à réconforter ton intériorité, à te remettre en question. Il t'aide à maîtriser ta personne, à éviter de penser à n'importe quoi. La lecture du Coran est importante. Et maintes exemples dans la vie des compagnons, et bien après les compagnons, nous montrent que la lecture du Coran a pu soigner des personnes de beaucoup de maladies psychosomatiques. Un autre élément, cinquième élément, c'est dhikrul maut, le rappel de la mort. Et on n'aime pas beaucoup parler de la mort. Le rappel de la mort, c'est un élément qui nous ramène à un juste équilibre, à une harmonie entre la dimension matérielle et la dimension spirituelle qui est en nous. Parce que c'est la fin ultime de tout un chacun. On ne connaît la réalité de la mort qu'à partir du moment où on est confronté à la mort par la mort d'un proche, la mort d'un ami, la mort d'un parent. Là, on décèle qu'est-ce que la mort, qu'est-ce que la profondeur et l'amertume de la mort. Le prophète alayhi salam disait dans Sahih Muslim, Akthiru min dikri hazim al-ladhat. Invoquez ou rappelez-vous, souvenez-vous de celui qui détruit les passions. Et celui qui éparpille les assemblées, al-maut, la mort. Le Coran Karim nous rappelle, où que vous soyez, la mort vous atteindra, même si vous êtes dans la hauteur des constellations. Toute âme goûtera à la mort. C'est la nature de l'homme, la finitude. Il était, il n'est plus. Et subhanallah, Sayyiduna Uthman ibn Affan radiyallahu anhu arda visitait les tombes. Et lorsqu'on enterrait quelqu'un, il pleurait. Et quand il visite les tombes, il pleure, on lui dit, mais est-ce que le défunt était cher à ton cœur? Et il dit, ce n'est pas ça. Lam abki ala al-mayt wa innama abki ala al-maut. Fal-qabru awwalu manzilin min manazil al-qiyamah. Fa iza kana yusran ma ba'dahu aysar wa iza kana shaqqan ma ba'dahu ashaq. Il dit, je suis en train de pleurer parce que la demeure par laquelle nous allons passer, qui est la tombe, me rappelle que c'est le premier élément de la vie future, la première étape. Si c'est la félicité, après, la félicité qui suivra, elle sera plus grande. Et si la tombe, c'est la colère de Dieu, ce qui suivra risque d'être pire. L'imam Ali alayhi rida wassalam nous rappelle par rapport à la mort. Il dit... Et subhanallah, quand le prophète nous demande, nous conseille de rendre visite aux tombes, certains vont dire ici, nous n'avons pas de cimetière musulman. Il y a, tout à l'heure, vous avez parlé de... Subhanallah, c'est important.
C'est important. Dans les pays musulmans, ça se fait souvent. Les gens vont visiter les tombes. Les tombes sont toujours visitées, etc. Ici, on ne connaît pas de cimetière musulman et on a tendance à délaisser. On est pris par le train-train quotidien, la vie qui court, et on a tendance à oublier. Moi, j'ai, subhanallah, j'ai des élèves à moi qui étaient chez moi au cours et qui sont décédés. Certains à l'âge de 19 ans, 20 ans, 22 ans, des accidents. Certains des amis qui sont décédés d'overdose ou d'autres. Et c'est un flash qui passe. Et ça vous réveille de temps à autre. Et vous vous dites, en l'espace d'un an, et demi, j'ai 4 élèves à moi qui sont décédés. Ce sont des gifles, c'est un choc. Et subhanallah, ce sont des leçons. Le décès de ces élèves a servi de leçon à beaucoup d'autres. Et ça a été des moments de réveil. Malheureusement, parfois il faut passer par là. Mais le fait d'avoir vécu la mort de ces gens-là, ça a été entre guillemets, un exorcisme pour l'insouciance de certains. Même s'ils n'ont pas pu visiter leur tombe parce qu'ils sont enterrés au pays d'origine des parents, etc. Mais en tout cas, ça a servi de leçon. Mais la visite des tombes est importante. L'imam Ali, alayhi salam, lorsqu'il rentrait dans les cimetières, et il entend quelqu'un dire « La ilaha illallah », il lui disait « Ya hada ». Si les gens de la tombe pouvaient te parler, ils te disaient « Ya hada law alimta fadlaha la maghafilta anha ». Si tu en connaissais la valeur, tu t'en écarterais pas. Et ils te répondent, les défunts enterrés te disent « يا من سكنتم دورنا واقتسمتم أموالنا وتزوجتم بأهلنا لا تغرنكم الدنيا لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بنا فاليوم المال لكم والحساب علينا. Ils te disent, ô vous qui avez habité nos demeures, qui avez partagé nos richesses, qui avez rejoint nos familles, que ce bas monde ne se moque pas de vous comme il l'a fait avec nous, parce que les biens sont entre vos mains. Mais c'est nous qui sommes jugés. Le défunt avait des biens qui ont été partagés entre les héritiers. Et lui, il est jugé pour ses biens, l'acquisition des biens, dans quoi il les a dépensés. Et ce sont d'autres qui en tirent profit. Cette histoire, pour terminer avec ce point-là, un homme vient voir l'imam Ali, alayhi ridha wassalam. L'imam Ali, le quatrième calife de l'islam, le compagnon le plus illustre parmi les compagnons du prophète, radiyallahu anhum ardahum, et min ahlil bayt, il dit, ya imam, tu es le gouverneur, tu es le calife, tu es le compagnon du prophète, tu es son gendre, tu es son cousin. Il lui dit, je viens d'acheter une maison et je voudrais que tu écrives le pacte, le contrat de vente pour acquérir la baraka. Alors il demande de lui ramener de quoi écrire et il écrit bismillah ar-rahman ar-rahim. On écrira aujourd'hui un tel à acheter d'un tel. Foulan a acheté de Foulan un palais, une villa, etc. Il lui met « Ishtara mayyitun min mayyit ». Un défunt, un mortel plutôt, a acheté d'un mortel. Pour lui rappeler que tu peux acheter ce que tu veux, tôt ou tard tu le laisseras et tu t'en iras. Qu'est-ce qu'il a acheté? Une villa, un palais, un château? Il lui met « Daran fi sakkatil ghafilin ». Une maison dans la demeure de l'oubli. Une maison fit dunya, dunya al-fitan, dunya al-ihan, dunya al-mihan, dunya al-masa'ib, dunya al-ibtila'at. La dunya de l'insouciance, de l'oubli, des préoccupations, des futilités, de l'ingratitude. Et il définit que cette demeure a plusieurs façades. On dira aujourd'hui, elle a une façade avant, une façade arrière, un jardin, un garage, etc. Il met hududuha arba'a. Elle a 4 façades. La première façade, haddun yantahi bihi ila al-maut. La première façade, c'est la mort. Wa haddun yantahi bihi ila al-qabr. La deuxième façade, c'est la tombe. Amatahu fa aqbarah, comme dit le Coran al-Karim. Il lui a fait découvrir, goûter la mort, il l'a enterré. C'est-à-dire, après la mort, on t'enterre. « وَحَدٌ يَنْتَهِي بِهِ إِلَى الْقِيَامَةِ » Une troisième façade qui est le jugement dernier, « يَوْمُ الْقِيَامَةِ » وَحَدٌ يَنْتَهِي بِهِ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ » Et la quatrième façade, c'est soit le paradis, soit l'enfer. Et ensuite, il cite avec son éloquence, hein, lui qui était la porte de la ville de la science, comme disait le prophète, alayhi salam, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Il dira, wa an-nafsu tabki 'ala ad-dunya wa qad 'alimat anna as-salamata fiha tarku ma fiha, fala dara lil mar'i yaskunuha illa allati kana qabla al-maut baniha, fa in banaha bi khairin taba maskanuhu wa in banaha bi sharrin khaba baniha, wa la hawla wa la quwwata illa billah. L'ego pleure pour ce bas monde alors qu'il doit être conscient que son salut ici-bas, c'est l'abandon de ce bas monde. L'être humain n'habitera aucune demeure dans l'au-delà si ce n'est celle qu'il était en train de concevoir ici-bas. S'il l'a conçue par le bien, à lui la félicité. Et s'il l'a conçue par le mal, il en sera le perdant. C'est à lui d'assumer. Pour nous montrer que le rappel de la mort est central. Et un dernier élément que je voudrais citer, après Dhikrul Maut, bien sûr les outils de Dhikr, de Tasbih, de l'Istighfar, de Qira'at al-Qur'an, etc., le rappel de Dieu, l'invocation de Dieu, les salutations sur le prophète alayhi wa alayhi salam, et sa sainte famille purifiée, as-salatu al-rasul alayhi wa alayhi salam, sont importants. Ce sont des outils. De temps en temps, prenez, je vois là le Tasbih, par exemple, et tu fais le Dhikr, tu fais l'Istighfar, tu fais les salutations sur le prophète alayhi salam, seul dans ton intimité. Tu n'as pas besoin de le faire en public, ce n'est pas du m'as-tu vu. Toi et ton intimité, mais impose-toi un rythme. 10 fois, 20 fois, 100 fois, peu importe ce que tu es capable de faire, mais fais-le. Mais le dernier élément sur lequel je voudrais clore cette rencontre, c'est l'outil essentiel aussi pour la question de l'éducation spirituelle, c'est la fraternité, al-ukhuwa. Le prophète Ali wa alayhi salam arrive à Médine, il instaure la cité-état de Médine et la première chose qu'il va fonder, c'est la mosquée pour la liaison verticale entre l'humain et le divin. Et ensuite, c'est la fraternité pour la liaison horizontale entre l'humain et l'humain. Il va instaurer la fraternité entre les muhajirin et l'ansar. Et ils vont apprendre à partager toutes choses. Parce que si on n'apprend pas à partager. Si on n'a pas le souci de l'autre, on ne peut pas se développer dans l'essor de la spiritualité. C'est impossible. On ne se fait pas seul. On a une source, une origine. On vient de parents, on a un entourage, on a une famille, on a une communauté. C'est l'absence de fraternité qui fait que l'on voit ce que subissent nos frères aujourd'hui en Palestine, hein, quand ils sont délaissés par les pays musulmans. Quand vous avez des mosquées qui vous disent, quand vous faites khutbat al-jumu'ah, et avant la khutbah, on te dit, mais mon frère, juste une chose, s'il te plaît, ne parle surtout pas de la Palestine. Mais je ne peux pas monter sur cette chair. Ce n'est pas la chair du prophète, alayhi salam. Quand vous faites khutbat al-jumu'ah et vous faites dua pour nos frères en Palestine, et on vous dit après, s'il te plaît, mon frère, tu peux revenir la semaine prochaine, mais ne parle surtout pas de la Palestine. Mais jamais je ne reviendrai sur cette chair. Jamais. Jamais on pourra acheter mon silence. Jamais. Sinon, ce n'est pas le sens de la fraternité. Ça, c'est le khudlan. C'est de la trahison. Le sens de la fraternité, ce n'est pas uniquement à l'égard du musulman. C'est même le non-musulman. Quand le prophète, alayhi salam, dit dans Sahih Muslim, « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. » Nul ne sera croyant que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. L'imam al-Nawawi, rahimahullah, en faisant l'explication de Sahih Muslim, il dit il s'agit ici de la fraternité humaine. Le musulman est la conscience éveillée de l'opprimé autour de lui. Celui qui est opprimé parce qu'on a bafoué ses droits élémentaires, comme la citoyenneté de seconde zone que vivent nos frères et sœurs en Palestine, celui qui est opprimé parce qu'il n'a pas les moyens de pouvoir vivre et qu'il est à la merci des grandes puissances, comme en Afrique, ceux qui sont opprimés parce qu'on ne met pas à leur disposition les moyens de pouvoir se soigner, quand on voit qu'en Afrique du Sud, les multinationales se décrochent les contrats pour pouvoir avoir la main mise sur des médicaments, alors que l'on peut facilement mettre à disposition de ce peuple-là des médicaments, des soins, etc., contre le sida ou d'autres maladies, enfin d'autres virus, et que ce sont les multinationales pharmaceutiques qui se décrochent ces contrats pour laisser d'autres mourir, pour provoquer la dépendance. Et c'est un jeu. Il est où le sens de la fraternité? Le sens de la fraternité est un des éléments de régulation spirituelle. La prière se fait en commun. Le pèlerinage, on est en période de pèlerinage. Le pèlerinage, c'est, comme disait le cher Sadr Sharaf Rahimallah, c'est le Al-Mu'tamar al-Islami al-Sanawi al-Kabir. C'est le grand colloque musulman islamique annuel. La rencontre des êtres, hommes et femmes, vieux et jeunes, riches et pauvres, gouverneurs et gouvernés, tous ensemble sont, se retirent des vêtements qui sont des signes de richesse et mettent des étoffes, tous ensemble, au-delà de leur appartenance culturelle ou de leur appartenance ethnique ou de leur appartenance linguistique, ont une seule préoccupation. « Labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika laka labbayk. Inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. » C'est de vouer les chants de louange de pureté de Dieu exalté soit-il. Au-delà de leur appartenance, de leur école juridique, de leur appartenance ethnique, culturelle, linguistique, géographique, etc., ils ont une seule et même préoccupation. Ça montre le sens même de la fraternité. Eh bien, la fraternité est un élément fondamental parce qu'ensemble, on peut cheminer. On a besoin de son frère pour nous renforcer. Le Coran Karim nous dit dans Surat Al-Hujurat, la Surat 49, إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله صدق الله العظيم. Certes, les croyants sont frères, parachevez votre fraternité et craignez Dieu. Les croyants sont frères, c'est un constat. Le Coran met en évidence que la fraternité, elle est fondée sur principe de la foi, au-delà de la fraternité consanguine. فأصلحوا بين أخويكم, c'est l'exigence. Parachevez votre fraternité. C'est-à-dire qu'il y a des moments de conflit, il y a des moments de tension, mais il faut renouveler le contrat de cette fraternité. Et je termine par cette histoire. Le prophète alayhi salam dit dans un hadith, il parle à ses compagnons et à un moment donné il pleure. Et ensuite il rit, il sourit. Et Anas ibn Malik radiallahu anhu arda lui dit à Rasulallah, ma yubkika wa ma yudhikuk. Qu'est-ce qui te fait pleurer, qu'est-ce qui te fait rire? Il dit Rajulani jathaya amama rabb al-izzah. Amama rabb al-izzah. Deux hommes sont à genoux devant le Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala lui dévoile ce qui se passe dans l'au-delà. Ahaduhuma zalim wal akharu madlum. Il y en a un qui est sujet d'injustice et l'autre qui est ingrat. Fayaqulu al-madlum li rabbihi ya rabbi khuz haqqi min akhi fa innahu qad dhalamani. Au Seigneur, je demande justice parce que mon frère a été ingrat à mon égard. Allah subhanahu wa ta'ala rend justice par les hasanat et les sayyiat. Et à un moment donné, il lui dit Ya abdi in akhaka qad faniyat hasanatuh. Ton frère n'a plus de hasanat. Je ne peux plus puiser de ses bonnes œuvres pour te payer. C'est-à-dire, Dieu l'invite au pardon. Et il lui dit Ya rabbi khuz min sayyiati wa tarha alayhi. A'ouz billah. Ô Seigneur, prends mes sayyiat, mes mauvaises actions, mes mauvaises œuvres à moi et qu'ils en subissent les conséquences. Et le prophète a pleuré. Il a dit Dalikum yawmun adhim yawmun yabhathu fihi an-nasu amman yahmilu anhum awzarahum. C'est un jour énorme où chacun cherche qui pourra porter une part de son fardeau. Et ensuite, il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans sa grandeur et sa miséricorde, exalté soit-il, dévoile. Il dévoile les traces de sa miséricorde, de son pardon. Il dévoile des palais. Et le serviteur voit cela, il dit, « Ô Seigneur, à quel prophète promets-tu cela ?» Il lui dit, « Laysa li nabiyyin min al-anbiya. » Ce n'est pas pour un prophète. « Li ayyi shahidin dhalik. » Pour quel martyr ? Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, « Ce n'est pas la récompense d'un martyr. » Il lui dit, « Wa liman dhalik ya Rabb. » À qui promets-tu cela ? Allah lui dit, exalté soit-il, Dieu exalté soit-il, lui dit, « Liman yadfa'u thaman » à celui qui donne le prix. « Wa man yamliku thaman azalika ya Rabb » Qui est-ce qui peut donner le prix de cela ? Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, lui dit, « Anta bi'afwika an akhik » Toi, en pardonnant à ton frère. Il lui dit, « Ya Rabbi qad afawtu an akhi » Ô Seigneur, je pardonne à mon frère de mon cœur. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, « Ya abdi khuz biyadi akhika wadkhul bihi al-jannah » Prends la main de ton frère et rentre avec lui dans ma grâce, ma béatitude et mon pardon. C'est-à-dire le sens du sacrifice de la fraternité, de l'amour pour Dieu. On s'est aimé pour l'amour de Dieu. On se critiquera pour l'amour de Dieu. Je te dirai ce que je pense de toi, sans blesser, sans injustice. C'est ça le sens de la fraternité. Al-mu'minu mir'atu akhi, le croyant, le miroir de son frère, dira le prophète, alayhi salam. Al-imam al-Hassan, radiyallahu anhu, alayhi salam, se dispute avec son frère Mohammed ibn al-Hanafiyya. Mohammed ibn al-Hanafiyya, c'est le fils de l'imam Ali, alayhi rida wa salam, dont la mère est al-Hanafiyya, l'ex-épouse d'Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, arda, qui, après son décès, l'imam Ali, alayhi rida wa salam, va l'épouser, par considération de son compagnon et de son frère Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, arda. Et Mohammed ibn al-Hanafiyya se dispute avec l'imam al-Hassan, et il lui écrit une lettre. Il lui dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, laqad qala jadduk. Il lui dit, au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Certes, ton grand-père a dit, c'est-à-dire le prophète, alayhi salam, parce que le Hassan, c'est le fils de Ali, le fils de Fatima, alayhi salam, la fille du prophète, alayhi wa alayhi salatu salam. Ton grand-père a dit, la yahillu l'imri'im muslimin an yahjura akhahu fawqa thalat. Il n'est pas permis à un musulman, un croyant, de s'exiler de son frère au-delà de trois jours, après une dispute. Yudbiru hada wa yudbiru dak. Chacun reste sur ses positions. Wa khayruhum allazi yabda'u bis-salam. Et le meilleur des deux est celui qui commence par le salam. Et il lui dit, je crains que ton grand-père demande justice le jour du jugement dernier et qu'il me dise pourquoi tu as mis mal à l'aise mon petit-fils. Et je ne veux pas être considéré meilleur auprès de Dieu que toi. C'est pourquoi je t'invite, toi, à venir me commencer par le salam. Et celui qui relate l'histoire, il dit, kharaj al-imam al-Hassan alayhi rida wa salam, la zala yalbisu rida'ah hafi al-qadamayn yuharwil liyatasafa'a ma'a akhi. Il sort de chez lui, pieds nus, encore en train de mettre son manteau et en train d'accourir pour rencontrer son frère. Quand ils se sont rencontrés, faltaqaya wa tasafaha wa tasamaha. Ils se sont rencontrés, ils se sont embrassés et ils se sont pardonnés. Il l'invite à pouvoir acquérir ce mérite d'être le premier qui commence par le salam. Le sens de la fraternité est une des conditions sine qua non de la stabilité de notre spiritualité, le souci de l'autre, être la conscience éveillée de l'opprimé autour de nous. Je vais m'arrêter ici laisser l'occasion à vos questions et à vos réponses. Et rappelez, comme dit le Coran Karim, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dieu ne change la réalité d'un peuple que quand il réforme ce qui est en lui. S'il y a volonté intérieure de se réformer, à partir du cœur, Allah subhanahu wa ta'ala, sans aucun doute, Dieu exalté soit-il, assistera notre aspiration à la réforme. Une réforme, pour paraphraser le titre de l'ouvrage du professeur Tariq Ramadan, une réforme radicale qui débute ici. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullah.
Donc Allah fik pour cette intervention, Yaqub. Juste pour dire une intervention qui était assez claire. Hein, on a des pistes maintenant pour on va dire pour travailler. Hein, parce que maintenant c'est bien d'avoir écouté. Hein, après il y a l'étape d'après, appliquer. Inch'Allah, chacun à son niveau. Enfin, moi juste une petite remarque. La dernière partie m'a un peu surprise. C'est-à-dire j'avais pas ça dans ma tête, le fait qu'il y ait en plus la fraternité dedans. C'est-à-dire, parce que quand on parle de purifier le cœur, on est dans le cœur. Et on ne pense pas justement à l'extérieur. Justement, on est toujours, c'est un peu un sentiment égoïste. Hein, et subhanallah, barakallahu fikoum. Alors on va clôturer ici. Inch'Allah, Yaqub, je vais te demander de clôturer avec des invocations et de penser. Il y a pas mal de frères ici, enfin, il y a quelques frères ici qui, dans le Varsino, qui vont partir au Hijj aussi. Et de faire des invocations pour eux. Comme ça, on aura peut-être, Inch'Allah, des retours encore plus puissants de là-bas, Inch'Allah.
Mais en fait, c'est à nous de vous demander des invocations et surtout face à Al-Kaaba et à Médine. La mosquée, la tombe du prophète, alayhi salatu salam, dans les endroits Arafat, surtout le jour de Arafat, etc. C'est nous qui avons besoin de vos invocations, inshallah ta'ala. Ne nous oubliez pas dans vos invocations. A'ouzou billahi minash shaitan irrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard.
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أنت كما أثنيت على نفسك فسبحانك وبحمدك سبحانك ما أعظمك سبحانك حيث كنت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن الكريم واكتب لنا بكل حرف منه حسنة وامحو عنا بكل حرف منه سيئة واجعله اللهم نورا في قلوبنا ونورا في صدورنا ونورا في قبورنا ويسر به أمورنا واقض به حوائجنا واشف به مرضانا وارحم به موتانا اللهم ارحم به موتانا اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وارحم من علمنا وارحم من كان له علينا حقا
حقا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم افتح علينا فتحات العارفين واجعلنا من عبادك النورانيين واغفر لنا خطيئاتنا يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن تنصر المستضعفين في كل مكان. اللهم أيد المجاهدين في فلسطين وأيد المجاهدين في أفغانستان وأيد المجاهدين في العراق وكلهم وليا ونصيرا. اللهم ثبتهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالجنود الصهاينة المعتدين. اللهم شتت شملهم. اللهم مزق جمعهم. اللهم فرق كلمتهم. اللهم نكس أعلامهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم اجعلهم وأموالهم غنيمة للمستضعفين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك أن تؤيد المسافرين إلى الحج يا رب العالمين. اللهم أبلغهم مأمنهم. اللهم تقبل منهم يا رب العالمين. اللهم كن لهم وليا ونصيرا واخلفهم في أهلهم يا كريم وتقبل منهم يا رحمن يا رحيم. نسألك اللهم لهم حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وعملا متقبلا يا رحمن يا رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعلنا إخوة متحابين بالمعروف آمرين وعن المنكر ناهين. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المنة الإنعام يا ذا الفضل والإحسان. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.